gesegnet, auch diese Versammlung mit deinem Sprechen. Wir brauchen dich, denn du bist der Weg.
Nous avons besoin de toi.
Wahrheit, du bist das Leben. Amen.
Tu es la vérité, le chemin et la vie.
Ja, liebe Geschwister, wir loben den Herrn für diese Zeit der Konferenz. Ach, dieses Wort Konferenz, wir können auch sagen, für diese Zeit der Gemeinschaft
nous louons.
Mit dem Vater, mit dem Sohn und
merci pour ce temps de communion entre le Père et le Fils et nous. Il est toujours précieux quand tous les saints se retrouvent. Il est bon de, quand nous venons tous ensemble pour écouter la parole, de chercher sa volonté, de trouver le chemin. Je voudrais dire de manière très spécifiquement, nous ne parlons pas de l'unité universelle de l'esprit. Naturellement, la Bible a une telle réalité. Tous les chrétiens nés de nouveau sur toute la terre appartiennent à ce seul corps de Christ. Mais l'unité dans laquelle Dieu nous a appelés n'est pas simplement une unité générale, mais c'est l'unité des saints qui vivent dans le lieu où ils habitent. C'est cette unité-là. Cette unité pour laquelle le Seigneur a tout donné. C'est une église de laquelle Paul dit, ça doit être une église qui doit être glorieuse, qui n'est ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Seigneur Jésus, par cette communion, fais-nous entrer dans cette gloire et nous te remercions que cette unité ne soit pas quelque chose qui vienne de nous, que nous devons produire ou que nous devons produire, oui, mais nous avons, comme la parole nous le dit, la gloire que le Fils a eue. Je lis dans Jean 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia pour cette gloire. Et nous avons choisi un titre aujourd'hui. Jésus nous fait entrer dans l'unité que le Fils allait avec le Père. C'est dans cette unité. Et il désire nous amener, nous, dans cette unité, afin que nous soyons un entre nous, comme lui a été un avec le Père. Et il dit, au verset 23, « Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Louez le Seigneur, notre unité. Donc cette unité pratique, expérimentée, des saints, dans l'Église, dans la vie pratique de l'Église, ça, c'est quelque chose à laquelle le monde doit pouvoir connaître que le Père a envoyé le Fils. Et même qu'il aime ce monde. Nous tous connaissons ce verset dans l'Évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Louez le Seigneur. Pour cela, le Père a donné son Fils. Frères et sœurs, ce qui me touche, c'est toujours nouvellement c'est ceci. Quand je repense, quand je prends ce verset en prière, en disant au Père, 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 tu n'as pas épargné ton Fils, mais tu l'as donné pour nous tous, mais pas seulement pour un salut de ce monde mauvais ou un salut de nos propres penchants mauvais ou un salut de la mort ou de l'Hadès ou des péchés. Tout ça, effectivement, le Seigneur l'a enlevé. Mais le résultat devait être que le monde puisse connaître que le Père a envoyé le Fils à cette unité que nous vivons dans l'Église. Donc, cette unité est quelque chose de très spécial. Et quand nous disons que Jésus nous emmène dans cette unité, il y a peut-être de nombreuses questions qui surgissent. Mais comment va-t-il le faire? Comment est-ce qu'il a accompli? Et comment pouvons-nous entrer dans cette unité aujourd'hui? Et j'ai pris ce verset dans Jean 14, le verset 6. Je l'ai choisi encore une fois. C'est Jean 14, le verset 6. Je vous le lis ou quelqu'un voudrait le lire parmi les frères et sœurs? Donc Jean 14, le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Ce qui veut dire, ce Jésus, ce Fils de Dieu, cet homme véritable qui a exprimé le Père, est passé par le processus de la mort à la vie pour devenir ce processus afin que nous aussi nous puissions venir au Père. Et c'est un fardeau pour moi ce soir que jamais nous ne pensions, ok, ça fait de nombreuses années que je suis croyant, que je suis chrétien, donc maintenant je viens simplement à toi Père, j'aimerais avoir un peu de communion. La parole dit, Jésus dit, je suis le chemin qui mène au Père. Nous avons besoin de cette conscience profonde que notre accès pour venir au Père ne passe pas par une bonne attitude ou « Oh, moi je suis dans un groupe religieux chrétien » ou dans une église chrétienne, ou même j'ai été élevé dans l'église nationale. Et donc j'ai simplement la liberté et l'hardiesse de venir au Père. Non. Le Père veut que nous prenions son Fils. En parlant sévèrement, il est le seul chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin », ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre chemin. Quand Jésus dit « Je suis la vérité », ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre vérité à côté de lui. Il est là, la vérité personnifiée de Dieu et de Dieu, en Dieu, par Dieu. Et il est aussi la vie. Donc dans ces trois domaines, sous tous ces trois domaines, c'est Jésus, la personne dont nous avons besoin pour avoir l'accès auprès du Père, pour connaître la vérité et pour toucher la vie. Il semble que pour nous qui avons eu beaucoup de contact avec la parole, ce soit clair. Mais néanmoins, je trouve qu'il est important dans une telle conférence de remettre ces choses devant notre vue, que Jésus dit, je suis le chemin. Ces petits mots, je suis, est déjà apparu dans l'Ancien Testament quand Moïse a posé la question avant qu'il a été envoyé chez Pharaon. Mais qu'est-ce que je dois dire? Qui m'envoie? De qui m'envoie? Quel est ton nom? Et Dieu a dit, je suis et mon nom. Ça veut dire celui qui existe toujours, celui qui vit toujours. Nous ne vivons tous pas toujours, mais notre Dieu est un Dieu éternel. Et il est un Dieu miséricordieux. Et c'est un Dieu plein de grâce. Et nous aimerons bien nous approcher de lui. Et pour cela, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de cette personne merveilleuse. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et j'aimerais aussi rester à ce nom de Jésus. Parce que dans le même chapitre, Jean 14, verset 14, et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous le demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et plus loin, au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Voyez-vous ici, cet esprit de vérité revient. Jésus est la vérité et il nous envoie ce merveilleux consolateur, le Saint-Esprit, en tant que l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et il est aussi le consolateur qui demeure éternellement avec vous. Après sa mort et sa résurrection, le Seigneur est monté dans les cieux, vers le Père. Mais il ne nous a pas, comme il le dit lui-même, laissés comme des orphelins. Mais il est venu vers nous. Et comment? En tant que le consolateur, en tant que l'Esprit Saint qui vit maintenant en nous, et qui nous amène dans toute la réalité, qui nous amène dans l'expérience de cette communion, afin que dans la vie de l'Église, nous expérimentions aussi une telle unité. Parce qu'il ne s'agit pas là de vérité, que le Père et le Fils sont un, mais il s'agit de la vérité, de la réalité, et de l'expérience que nous, par cette gloire que le Christ ressuscité nous a envoyé dans l'Esprit Saint, que nous expérimentions cette unité que le monde ne connaît pas, qu'on ne peut pas non plus imiter. Et pour cela, il nous a donné son nom. D'un côté, nous voyons l'œuvre de Jésus, sa mort à la croix, sa vie sur cette terre, pleine d'obstacles, pleine d'attaques. Mais toutes ces choses ne l'ont pas fait reculer et ne l'ont pas empêché d'aller jusqu'au bout et d'aller jusqu'à la mort à la croix. Et dans Philippiens aussi, Philippiens 2,
Amen.
Philippiens 2, verset 8, Donc Jésus-Christ, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, parce qu'il était aussi obéissant, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Louez le Seigneur pour ce merveilleux nom. Ce n'est pas seulement un chemin pour nous, ce n'est pas seulement une vérité pour nous. Il est la vie pour nous. Et nous avons part à cette personne par la foi en son nom. Dieu a donné à ce Christ un nom qui est au-dessus de tout nom. Et ce nom, dans ce nom, Paul dit dans Éphésiens, dans ce nom sont soumises toutes les autorités et les puissances. Ce nom est un nom qui sauve. Ce nom est un nom qui libère. Ce nom nous aide pratiquement. Je viens à cet aspect de l'unité. L'unité pratique dans la vie de l'Église, quand la vie d'Église ne tourne pas rond, entre guillemets, ou quand je me sens offensé, comment est-ce que je vais être sauvé? Par son nom. Je l'invoque, je prie, je me tourne vers lui. Louez le Seigneur. Je lis dans la parole. Et d'un coup, je vois, Alléluia, ce nom est élevé au-dessus de tout nom. Ce nom est aussi au-dessus de ce petit problème. Seigneur Jésus, en ton nom, je prie pour mon frère, pour ma sœur, que nous soyons tous un, comme toi, Père. Tu es un, ou toi, Jésus, comme tu es avec le Père. C'est merveilleux ainsi. Le nom de Jésus, Christ, est un nom merveilleux qui sauve. Et déjà dans Actes des Apôtres, alors que les premiers disciples et apôtres sortent pour annoncer l'Évangile, le nom de Jésus est toujours annoncé en tant que ce nom qui sauve. Lisons à ce sujet Acte 4, le verset 12. Peut-être que quelqu'un peut le faire pour moi, à ma place. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Oui, amen. C'est vraiment un verset clé. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné aux hommes parmi lequel nous devions être sauvés. C'est pas nous pouvions être sauvés, mais nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre vérité. Il n'y a pas d'autre vie que nous voulons avoir que cette vie, la vie de Jésus. Et cette vie nous est donnée dans son nom. Chaque fois que je dis Seigneur Jésus, je suis sauvé. Quand je dis Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, alors je plie mes genoux devant le Père. Alors je viens au Père et j'ai un accès libre au Père. Et lisons encore ce verset dans Hébreux 2, qui est précieux. Hébreux 2, les versets 9 et 10. Hébreux 2, versets 9 et 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevé à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Éleva la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc ces versets nous montrent aussi que le chemin qu'a pris Jésus a été un chemin qui a été très difficile. Et je pense que seul lui a été qualifié pour prendre un tel chemin. Mais le but était d'amener de nombreux fils à la gloire. Et même, il est le prince de leur salut. Mais il a été perfectionné par les souffrances. Ce qui veut dire, pour Jésus, cela a été un chemin très étroit. C'était un chemin très étroit. Il a dû passer par la mort et la résurrection. Mais Dieu a récompensé ce chemin. Il a fait de lui le Seigneur, la tête au-dessus de toutes choses. Et en tant que tel, il nous a donné une nouvelle possibilité, c'est-à-dire d'avoir l'unité, la gloire de l'exprimer, la gloire de Dieu de l'exprimer. Et dans Jean 12, nous l'avions aussi inscrit, Jean 12, Jésus dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Louez le Seigneur. La mort de Jésus est une mort qui amène en existence beaucoup de petits grains de blé. Pour lui, ça a été un combat, mais en même temps, ça a été la victoire de la résurrection. Parce que Dieu a confirmé cette mort, a confirmé cette vie de Jésus comme le seul chemin qui amène au Père. Et nous avons besoin de Jésus-Christ en tant que notre Sauveur et en tant que notre chemin pour être dans la communion avec notre Père céleste. Et d'autant plus, nous avons besoin de Jésus pour la communion entre nous, les uns avec les autres. Car il est relativement simple par Jésus de venir au Père par la foi, par Jésus-Christ, et de dire « Louez le Seigneur !» Oui, je suis dans... J'ai été rendu un avec le Père par Jésus. Jésus m'a réconcilié avec le Père. Je crois que Jésus a ôté mes péchés afin que maintenant je puisse me tenir devant le Père, devant le trône de la grâce. Mais le test pratique est aujourd'hui dans la vie de l'Église. Est-ce que nous sommes aussi prêts de laisser notre moi afin que cette unité, c'est-à-dire cette unité du Père et du Fils dans les églises et par les églises, dans les lieux où nous habitons, soit exprimée. Pour moi, ce n'est pas un problème. J'ai entendu hier qu'il y a beaucoup de frères et sœurs de Russie se sont rajoutés. Vous êtes croyants, vous croyez en Jésus-Christ, vous avez reçu la vie éternelle, moi aussi. Vous avez le pardon des péchés, moi aussi. Tout ça, c'est très clair. Nous sommes un là-dedans. Et c'est ce qui fait notre unité, parce que nous croyons en Jésus. Mais le test, si Dieu peut vraiment avancer avec nous et nous peut nous amener dans la gloire, c'est si, dans la vie pratique, de l'Église. Nous ne prions pas seulement, mais nous servons les saints et que nous exprimions ce merveilleux Dieu trinitaire. Alors nous voyons d'un coup combien il est difficile à certaines fois de vivre cette unité. Et j'aimerais vite prendre des versets d'Éphésiens où Paul prie que nous devons être appliqués pour garder l'unité de l'esprit. Éphésiens 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Nous avons cette unité de l'esprit, nous devons la garder. Mais nous avons besoin de cet effort de vivre Christ, de vivre par Christ. Alors nous pouvons aussi véritablement vivre cette unité de l'esprit. Et cette unité est caractérisée par sept facteurs. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ces facteurs de l'unité, Christ, l'Esprit nous les a donnés. Et ces facteurs de l'unité, nous devons les garder avec application. Car si nous rajoutons quelque chose, alors le corps se divise. Dans tant d'années de vie d'Église, ici en Europe, où il y a beaucoup d'Églises qui ont expérimenté à quel point il est précieux et glorieux d'être dans cette unité de l'esprit. Et l'Église, le corps de Christ, dans le lieu de l'exprimer. Combien ont aussi expérimenté que s'il y a toujours encore un autre facteur qui se rajoute, que ce soit un enseignement particulier, que ce soit des pratiques particulières, alors cette unité de l'esprit s'est perdue. Naturellement, pas pour tous. Louez le Seigneur. Il y en a toujours eu quelques-uns. Et la grande partie des saints a reconnu notre unité est Jésus-Christ. Et d'être ensemble parce que nous tenons fermement à cet merveilleux esprit de l'unité. Et cet esprit amène la vie nouvelle. Chaque jour, nouvellement, afin que nous puissions conserver cette unité de l'esprit. Et cet esprit de vie nous a aussi transplantés dans une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. Ce qui est vieux est passé. Voyez, tout est nouveau. Louez le Seigneur pour cette nouveauté que nous avons par l'esprit. Et dans son nom, Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce Christ, dans cette unité, permettez-moi de lire ceci dans Galates 5, le verset 15, je lis le 14 aussi. Désolée, je n'ai pas la référence. C'est ce qui compte, c'est la nouvelle création. Louez le Seigneur. Les églises présentent la nouvelle création. Il ne s'agit pas de forme. Il ne s'agit pas de forme d'adoration ou des normes, mais il s'agit de cette vie de Jésus. Que cette vie de Jésus croisse dans les frères et sœurs. Que nous ayons cette expérience d'être crucifié avec Christ, d'être, c'était Galates 6,15. Et j'ai été crucifié aussi avec le monde. Et alors nous avons la nouvelle création et nous vivons dans cette nouvelle création.
Amen.
Que le Seigneur vraiment nous impressionne. Cette unité dans laquelle nous vivons est vraiment cette unité de cette unité de ce merveilleux Christ, de cette unité de l'Esprit, de ce corps réel qui existe sur cette terre. Et ces églises demeurent dans le livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin. Et tout à la fin d'Apocalypse, il est dit, ceci je témoigne dans les églises. Louez le Seigneur, les églises ne se terminent pas. Elles passent par des expériences différentes, mais elles restent dans la main de Dieu. Elles restent sous le règne de notre merveilleux Seigneur qui nous approvisionne, qui nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour l'unité. Merci Seigneur Jésus, tu nous as donné cette unité, cette gloire que tu as reçue toi-même du Père et tu nous l'as donnée. Nous pouvons participer à cette merveilleuse unité. Louez le Seigneur. Nous sommes rassemblés en son nom. C'est ainsi que les Actes des Apôtres ont commencé. Ils étaient tous ensemble en son nom, réunis en son nom, et ils ont vécu une unité merveilleuse. Par manque de temps, nous ne pouvons pas lire tous ces versets. Tous ces versets sont dans Actes des Apôtres. Ils étaient constamment ensemble dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion des saints, des apôtres, pardon. Louez le Seigneur. Et nous le pratiquons aussi dans la vie d'Église. Et nous voulons encore croître dans cela, augmenter en cela, afin que le Seigneur obtienne quelque chose dans toutes les églises, c'est-à-dire une église qui est glorieuse, qui n'a ni tache ni ride.
Amen.
Merci Seigneur pour tes églises et merci aussi pour l'unité pratique dans les églises. Nous avons besoin de toi. Nous te cherchons car tu es la garantie pour cette unité. Oui, maintenant, je donne encore la parole au cher frère Matthias. Que le Seigneur continue de nous parler à nous tous.
C'est qui avant?
Oui, merci Seigneur, parce que tu nous parles. Seigneur Jésus, ouais. Ton nom est vraiment précieux et il est aussi merveilleux quand le Dieu vivant nous parle. C'est un temps précieux que nous pouvons avoir et je remercie vraiment le Seigneur. Même si je préférerais tous vous voir, je remercie néanmoins le Seigneur que le Seigneur a quand même un témoignage visible sur cette terre. J'aimerais revenir courtement sur ce point. J'aimerais aller au point D du résumé. Mais j'aimerais aussi revenir en arrière et simplement confirmer que c'est possible C'est merveilleux que le Seigneur aujourd'hui nous ouvre les yeux. Il désire nous ouvrir les yeux afin que nous puissions le contempler. Comme nous l'avons lu, les voiles qui sont sur nos cœurs sont ôtés. Le voile qui a été sur mon cœur, ôte-le. J'aimerais te contempler et te refléter. Je trouve cela très précieux que Dieu, que nous ayons vu, que Dieu voudrait s'exprimer, qu'il voudrait être exprimé sur cette terre, avoir son témoignage, être vu. Ce Dieu invisible veut être vu. Et c'est pour ça, que fait-il? Il fait quelque chose de visible, il fait une création. Il amène en existence quelque chose qu'on peut voir. Et de la même manière aussi, aujourd'hui, dans le temps de la Nouvelle Alliance, il y a une nouvelle création. Et cette nouvelle création, oui, elle doit aussi être vue. Le Seigneur aimerait aujourd'hui, par son corps, sur cette terre, être vu, être exprimé. Louez le Seigneur. C'est vraiment un appel élevé que le Seigneur nous ouvre les yeux. J'aimerais confirmer aussi, ce n'est pas dans le domaine de l'intelligence, ni dans le domaine de l'enseignement ou des rites, mais c'est dans le domaine de l'esprit. C'est quelque chose que le Seigneur veut dessiner individuellement à chacun de nous. Et il veut nous faire entrer dans cette unité. J'aimerais revenir en arrière au titre « Jésus nous fait entrer dans cette unité ». Nous avons lu dans Jean, dans l'Évangile, nous avons lu la prière du Seigneur quand il prie « Père, Père, que tous les croyants soient un comme le Père et le Fils sont un. » C'était une prière du Fils au Père. C'est une demande qu'il a dans son cœur. Et nous avons aussi déjà vu, mais je voudrais le confirmer aussi, cette relation entre le Fils et le Père était merveilleuse. C'est quelque chose qui n'a encore jamais existé. Il y avait une telle unité. Ils n'étaient pas séparables, les deux. C'est trop grand et trop merveilleux. Mais la parole le dit. Louez le Seigneur. Ça aussi, c'est l'unité que nous avons les uns avec les autres. Et c'est aussi mon désir que cette unité puisse devenir visible aujourd'hui. J'aimerais venir au point. Oui, le Seigneur ne nous montre pas seulement une théorie ou un enseignement concernant quelque chose. Non, le Seigneur nous parle. La parole du Seigneur est la vérité. Et le Seigneur lui-même est le chemin, et la vérité, et la vie. Et la vérité, dans ce contexte aussi, a aussi la signification de réalité. J'aimerais relire le verset dans Jean 14. Avec l'arrière-plan de la réalité, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Le Seigneur est le chemin et il est la vérité et il est la vie. Courtement, j'aimerais aussi voir les versets de Actes qui sont sous le point B. Actes 11. Versets 22 ou 23.
Als dieser hinkam,
Lorsqu'il fut arrivé, le verset 23, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Louez le Seigneur. C'est le point que j'ai encore sur le cœur. Je trouve ce verset merveilleux. On a vu dans l'Acte des Apôtres, la vie de l'Église a commencé. Des hommes qui ont connu Jésus, qui ont entendu sa parole, ont cru que l'œuvre que Jésus a faite était vraie, réelle, et l'ont acceptée. Et cela a donné une unité visible. Et c'est ce qui les a fait se retrouver. Il est dit, la multitude des croyants était une âme, un cœur, par cet esprit efficace de la vie. Donc de manière visible, dans le lieu où ils vivaient, où ils étaient, ils avaient cette unité visible. Cette unité visible à Antioche, là. Et à Antioche, ils se sont retrouvés dans le verset 26, on le voit aussi. Et c'est là aussi que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. C'est-à-dire qu'on a vu, ils appartenaient à Jésus. C'est un témoignage visible. Ses frères et sœurs connaissaient le Jésus vivant, le chemin, la vérité et la vie. Et c'était aussi leur expression. Il y a quelque chose qui était exprimé que les gens voyaient. Ces hommes-là, en fait, il fallait bien leur donner un nom à ces hommes. Ce sont des chrétiens. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Dans Actes, il est aussi dit, dans Actes 2, Ils enseignaient avec de grosses têtes, beaucoup de connaissances dans la tête. Non, ils étaient simples et c'était des gens non instruits. Je n'ai pas le verset, peut-être pour la traduction, je vais le dire. C'est dans Acte 4, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Frères et sœurs, c'est vraiment un fardeau. Le fait que le Seigneur nous parle, ce que nous lisons dans la parole, ce que nous entendons depuis des années peut-être dans la vie d'Église. Le Seigneur veut l'amener en existence dans nos vies. Cela doit se voir dans notre vie quotidienne. Et là, il nous faut prendre une décision du cœur. Retournons dans Acte 11. Dans Acte 11, au verset 23. Là, il y avait donc des frères et sœurs. Il y avait simplement un encouragement. Donc Barnabas y est arrivé et il a encouragé les frères et sœurs pour rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Il est bon que dans nos cœurs, une fois pour toutes, que nous décidions d'appartenir au Seigneur. Mais pour tous ceux qui l'ont déjà fait une fois par le passé, il est aussi bon de prendre une telle résolution de cœur et de rester au Seigneur. Non pas de suivre un homme, mais non pas de suivre des choses de ce monde, mais de rester attaché au Seigneur. Louez le Seigneur. Et j'ai vraiment apprécié, notre Dieu nous laisse prendre la décision. Notre Dieu nous a laissé à nous les hommes une libre volonté. Dans Genèse déjà, Dieu a placé l'homme dans un jardin où il y a énormément d'arbres et il lui a dit « Tu peux manger à tous les arbres, mais d'un seul tu n'en mangeras pas, parce que sinon tu en mourras. » Il n'a pas mis du barbelé autour de cet arbre. Il a simplement dit « Mange plutôt de l'arbre de vie, naturellement, de manière figurée. » Mais il lui a laissé le choix. « Fais le bon choix. » fait, prend la bonne décision, et plus tard aussi avec son peuple. Dans Deutéronome, nous le voyons très clairement, au chapitre 30 de Deutéronome. Oui, là il y a la parole. Donc, le verset 14 dans Deutéronome 30, il est bon quand le Seigneur parle. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La parole est proche, il est bon d'entendre la parole, mais il est aussi bon que cette parole ait une agisse dans mon cœur. Et il faut que je fasse attention à cela. C'est le devoir de chacun de nous, et aussi en ce qui concerne l'édification de l'Église. L'édification dans le lieu où je vis, là se décide tant, tant se décide dans le cœur de chaque frère, de chaque sœur. Et là, nous sommes tous responsables. Je continue dans Deutéronome 30, je laisse quelques versets, donc je vais au verset 15. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Donc Dieu a présenté quelque chose. Il ne nous force pas à prendre quelque chose de précis. Il nous met cette décision entre les mains. Est-ce que tu choisis la vie ou tu ne la choisis pas? Et plus loin, il est dit, au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » J'apprécie cela, il s'agit déjà là de la vie. Dans Genèse aussi, il y a l'arbre de la vie. Et ici aussi, choisis la vie. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, il est nécessaire que nous choisissions la vie. Que nous nous décidions pour la vie. Dans beaucoup de situations, aussi quand nous nous rencontrons dans une réunion, que choisissons-nous? Choisissons-nous de rester dans nos pensées, dans nos soucis, ou choisissons-nous peut-être, nous voudrions peut-être rassembler plus de connaissances dans la parole, ou choisissons-nous la vie? Je suis encouragée. Je voudrais choisir la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Choisis-le. Nous avons un tel chant, je crois même que c'est un chant d'enfant. En toute situation, choisis Jésus. C'est vraiment mon fardeau. Et également dans ce contexte d'insister là-dessus, il y a beaucoup de versets qui insistent là-dessus, qui le montrent, qui montrent que Dieu apprécie quand nous faisons le bon choix. Sous le point 1A, j'ai marqué une décision fondamentale. Dans Acte 2, il y a un bon passage où les frères ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Et pas seulement de Jésus, mais ils étaient là en tant que le témoignage de l'unité. Ils ont eu dans l'unité ce désir que l'Église se multiplie, qu'elle soit édifiée. Dans Acte 2, verset 37, donc, quelques personnes ont entendu la parole. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Louez le Seigneur. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Louez le Seigneur. La parole leur a touché le cœur. Ils ont été... Nous, on aime dire, la parole m'a touché. Oui, il est bon que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Si le Seigneur ne fait que toucher notre cœur et toucher le cœur et la parole touche notre cœur, d'accord, c'est une bonne chose pour notre cœur, guérissante. Mais quand le Seigneur parle, il faut qu'il y ait aussi une réaction en nous. Et cette réaction est bonne là. Que ferons-nous? Pose la question au Seigneur. Merci Seigneur, tu m'as parlé, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de cela? Nous n'avons pas besoin maintenant d'être zélés pour faire quelque chose pour Dieu. Pas non plus en ce qui concerne l'édification de l'Église. Ne me comprenez pas mal, mais je trouve cette question précieuse. Que ferons-nous? Et Pierre répond en leur disant ce qu'ils doivent faire. Repentez-vous. Et ils se sont fait baptiser et ils ont changé fondamentalement leur vie. Ils ont choisi une vie en Christ. Et c'est précieux. La foi et le baptême ne signifient pas seulement que nous croyons en Jésus, mais le baptême signifie aussi que nous sommes transplantés en lui. Et ceci me ramène au titre, Jésus nous fait entrer dans cette unité. Nous sommes rentrés dans cette relation qui existe entre le Père et le Fils, et nous sommes aussi transférés dans son corps. Ça, c'est une réalité merveilleuse. Foi et baptême. Et mon expérience, et je pense qu'il y a aussi beaucoup qui ont fait cette expérience de frères et sœurs, peut-être ceux qui ont grandi dans la vie d'église. Foi et baptême sont des bases merveilleuses, mais je pense aussi qu'il est nécessaire que nous affermissions ceci devant le Seigneur, de prendre sa décision. Seigneur, pour moi, c'est sérieux. J'aimerais, dans ma vie, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur, je veux être trouvé en toi. Je ne voudrais pas que ce soit simplement une vérité, quelque chose que je crois ou quelque chose que je trouve juste, mais Seigneur, que ceci grandisse en moi. Oui, une telle décision nous gardera aussi de beaucoup de compromis que nous pouvons faire en tant que croyants. Nous sommes dans ce danger-là, nous courons ce danger de faire des compromis. Compromis avec le monde, compromis aussi avec la religion. Seigneur Jésus, le Seigneur est le chemin. C'est le chemin. Il y a un seul chemin qui amène la vie, c'est Jésus-Christ. Et cette décision fondamentale, comme je l'ai dit déjà avant, doit trouver son expression dans notre vie de tous les jours. Comme il est dit dans Colossiens 2, comme nous avons reçu le Seigneur, que nous marchions aussi en lui. En lui. Louez le Seigneur. Le Seigneur nous a emmenés avec lui à la croix par sa vie, par sa mort et sa résurrection. Il a tout fait pour qu'aujourd'hui nous puissions dire « Je suis en Christ, nous sommes en Christ, j'aimerais aussi marcher en Christ. » Et c'est aussi quelque chose, ce pourquoi nous pouvons toujours nous exercer journellement. Seigneur, je suis en toi. Il y aura peut-être une attaque et je constate que je suis en train de clocher. Je ne sais plus où est le chemin. Seigneur, je suis en toi. En Christ, il y a une nouvelle création. Et aussi, ce qui est précieux dans la vie d'Église, aussi quand il y a peut-être les frères et sœurs autour de nous ne nous conviennent pas, qui ne sont pas comme nous les représentons, mais de dire, Seigneur, je suis en toi, et pas seulement moi, je suis en toi, mais les saints qui sont dans le lieu où tu m'as mis sont en toi. J'ai des frères et sœurs, j'ai un verset encore dans Romains, chapitre 8. Le Seigneur se réjouit vraiment quand il n'est pas le seul. qui est passé par la mort et la résurrection.
Romains 8,
verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Je remercie le Seigneur pour les nombreux frères et sœurs. Dans le lieu où je vis, je suis encouragé. Soyez aussi encouragés de vous encourager à demeurer ferme au Seigneur. Peut-être que tu dis, tu penses, lui n'a pas besoin d'encouragement. Si, chacun de nous a besoin d'un encouragement. Parce que le Seigneur voudrait garder nos cœurs pour ce témoignage, pour cette expression de l'unité, pour cette expression de l'unité entre le Père et le Fils, et aussi entre nous. Amen. Il est déjà assez tard, mais j'ai encore un point sur le cœur qui est en relation, qui m'est devenu important dans tout ce que nous voyons. C'est une clé, c'est-à-dire c'est la parole. Je l'ai écrit, venir à la parole. Ceci aussi a à voir avec une décision. Prends une décision. Décide-toi, venir au Seigneur et à le chercher dans la parole. Ne commence pas la journée avec les nouvelles ou ton travail ou les soucis. Il y a plein de choses, mais décide-toi pour la parole. La parole est une telle bonne base et pas seulement la parole dans le sens de l'être, mais l'esprit donne la vie. Ici à Berlin, on a lu quelques versets dans l'évangile. C'est la parabole de l'homme qui construit une maison. Et nous aussi, dans nos vies, nous construisons. C'était dans Luc 6. Verset 45-46, moi je montrerai à qui il est semblable, celui qui met en pratique la parole. Je vous montrerai donc, il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, c'est la première chose qu'il a fait, creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. J'aimerais être aussi un tel homme. Creusez d'abord. Viens d'abord au Seigneur. Creuse la parole. Prends-toi le temps. Décide-toi pour cela. Ce n'est peut-être pas le travail le plus joli de creuser. Tu veux une belle maison. Mais cet homme décide d'abord de creuser. Et il ne creuse pas n'importe où. Pour creuser, non. Il creuse jusqu'à ce qu'il ait trouvé le roc. C'est une bonne illustration concernant notre manière de prendre la parole. Nous cherchons le Seigneur, nous cherchons le roc, le Seigneur Jésus. Et ceci nous affermit. Et c'est aussi ce Christ qui est le fondement pour l'édification. Et pour cette édification, il est bon justement. Peut-être qu'on l'a déjà dit au Seigneur. Peut-être qu'on le sait dans notre tête, mais il est bon de dire au Seigneur, Seigneur, oui, merci que tu m'aies amené dans cette unité. Merci parce que tu m'as amené dans le lieu où je suis, parce que tu m'as donné les frères et sœurs qui vivent autour de moi. J'aimerais être utile, traite aussi dans mon cœur, là où je ne suis pas encore utilisable. Je voudrais être utile. Une telle prière, je pense qu'une telle prière, le Seigneur l'apprécie. J'ai indiqué un psaume de David qui prie. On ne va pas lui lire maintenant, mais il a vu. Le Père a besoin d'une maison. Il voudrait avoir un témoignage. Il voudrait avoir une maison. Et je ne la vois pas sur cette terre. Où est-elle? Et il a dit, mais je ne donnerai de sommeil à mes yeux que je n'ai trouvé un lieu où tu te reposes. Ça aussi, c'est une bonne attitude de cœur pour nous. Décide-toi pour l'édification. C'est aussi une bénédiction. C'est une vraie bénédiction. Louez le Seigneur. Une grande bénédiction repose sur cette unité. Le Seigneur, c'est lui qui œuvre en nous. Je l'ai encore inscrit à la fin. Le Seigneur ne cherche pas des hommes spécialement forts ou spécialement capables. Non. Nous, dans notre incapacité, nous pouvons lui demander et lui dire, merci Seigneur, c'est toi qui œuvres en moi. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est dans Philippiens 2, 13. Pour son bon plaisir. Oui, que le Seigneur, spécialement de ce temps, aujourd'hui, dans tous les lieux, ait son expression. Et ça a directement à voir avec chacun individuellement de nous. Et aussi avec notre décision de cœur que chacun doit prendre devant le Seigneur. Louez le Seigneur. Et ainsi, le Seigneur, aujourd'hui déjà, il peut amener en existence cette Église qui est glorieuse. Ce témoignage est tellement précieux. Louez le Seigneur. J'arrête ici pour qu'il y ait encore un peu de temps de communion.